RFI, il est 13h à Paris, 11h en temps universel.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal, une déflagration pour le commerce mondial qui va s'amplifier. Depuis ce matin, des produits du monde entier surtaxés de 10% à l'entrée des États-Unis après les décisions de Donald Trump sur les droits de douane cette semaine. L'Union européenne prépare une riposte. En parallèle, en France, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, une tendance s'observe. Le nombre de voyages réservés aux États-Unis est en baisse. Reportage dans un instant. Au Cambodge, une inauguration qui fait parler, une base navale rénovée par la Chine. La Chine qui n'en aura pas l'usage exclusif, a assuré Phnom Penh, alors que Washington s'inquiète de l'influence grandissante de Pékin dans la région. Et puis en Iran, la crise de l'eau se fait sentir, notamment avec les pays frontaliers comme l'Afghanistan ou la Turquie depuis plusieurs années. Les détails dans ce journal. La guerre commerciale lancée par Donald Trump se poursuit. Depuis ce matin, des produits du monde entier sont visés par une surtaxe de 10% à l'entrée des États-Unis. Ces 10% s'additionnent aux taxes douanières déjà existantes. Pour l'instant, le pétrole, le gaz, le cuivre, l'or, les semi-conducteurs ou encore les produits pharmaceutiques ne sont pas concernés. Depuis les annonces du président américain, certains pays s'organisent pour répondre. Pékin va imposer des droits de douane de 34% sur tous les produits importés des États-Unis à partir du 10 avril. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère chinois des Finances. Du côté de l'Union européenne, une riposte en deux parties est prévue. En France, une réunion d'urgence a été organisée jeudi à l'Élysée sur ce sujet. Emmanuel Macron, le président, a par ailleurs appelé à suspendre temporairement des investissements aux États-Unis. En parallèle de cette guerre commerciale, une tendance chez les touristes français se dessine. Le nombre de voyages réservés aux États-Unis est en nette baisse. Sur le mois de mars, les professionnels du secteur parlent d'une chute de 15 à 25% par rapport à l'année dernière. Léonard Jochem s'est rendu dans une agence de voyage à Issy-les-Moulineaux, près de Paris. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'effet Trump est bien réel.
Devant la vitrine, Françoise considère les options, sauf une, les États-Unis.
Enfin, avec ce qui se passe, le petit président, là, le copain de Poutine et tout, avec tout ce qu'ils sont en train de faire et tout. Non.
Ce ne sera donc ni New York ni Californie pour elle cet été. Inès non plus n'ira pas. Le climat politique la gêne, mais...
Si on me propose avec un bon prix, etc., pourquoi pas ? C'est peut-être pas ce qui va m'arrêter complètement de dire que ce soit Trump à la tête.
À l'intérieur de l'agence, Lucie est responsable. Dans ce secteur depuis 30 ans, le malaise autour de Trump, c'est du jamais vu.
Je crois que ça fait peur à pas mal de gens. D'emblée, les gens parlent des États-Unis en disant « je n'irai pas ».
Ici, le nombre de voyages chez l'oncle Sam a été divisé par deux en un an.
Là, les gens, ils me disent « ce type est fou, on veut pas aller là-bas ». Presque tous les jours, on reçoit des messages des États américains, de la Californie, de la Floride, enfin de tous les États, qui nous disent « attention, il y a une baisse de demande sur les États-Unis, il faut continuer de dire à vos clients de venir aux États-Unis ».
Lucie l'assure, c'est le Canada qui rafle la mise. Les réservations ont presque triplé. Le malheur des uns fait le bonheur des autres.
Reportage de Léonard Jochem. Et dans son bureau ovale à Washington, au-delà des droits de douane, Donald Trump suit un autre sujet international, l'Ukraine. Aujourd'hui, le pays est endeuillé par une frappe de Moscou. Au moins 19 morts, dont 9 enfants, et près de 70 blessés ce samedi après une attaque russe hier à Kryvyi Rih. C'est la ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans le centre du pays. En parallèle, lors d'une visite à Kiev hier, les chefs d'état-major des armées françaises et britanniques ont discuté d'un renforcement de l'armée ukrainienne et des options de réassurance à fournir dès la mise en œuvre d'un cessez-le-feu. Déclaration du général français Thierry Burkhard. Paris et Londres tentent de bâtir une coalition de pays volontaires pour peser dans les tentatives de négociation lancées par Washington avec Moscou pour mettre fin au conflit. En Asie du Sud-Est, le Cambodge inaugure aujourd'hui la base navale de Réam, située dans le golfe de Thaïlande. Cette base, rénovée avec l'aide de la Chine, suscite l'inquiétude de Washington, qui voit là un possible renforcement de la présence militaire chinoise dans une région stratégique et qui menace leurs intérêts géopolitiques. Les explications de Yelena Tomic.
La base navale de Réam se trouve à une trentaine de kilomètres de Sihanoukville, sur le golfe de Thaïlande, à proximité de la mer de Chine méridionale. Une zone stratégique, riche en ressources naturelles et cruciale pour le commerce maritime mondial. Phnom Penh a beau vouloir rassurer que la base servira uniquement à renforcer sa propre défense et qu'elle restera ouverte aux marines des autres pays. Un navire militaire japonais sera d'ailleurs le premier à accoster après l'inauguration. Les États-Unis soupçonnent le Cambodge, allié historique de Pékin en Asie du Sud-Est, de vouloir transformer cette infrastructure en avant-poste pour la marine chinoise et de permettre à la Chine d'étendre son collier de perles, une série de points d'appui stratégiques le long des routes maritimes. Convaincu d'une consolidation de l'axe sino-cambodgien, Washington a intensifié ses activités de renseignement dans la zone et même envisagé des sanctions ciblées contre des officiels cambodgiens impliqués dans le projet. Aucune mesure concrète n'a été adoptée à ce jour.
Yelena Tomic. On reste en Asie du Sud-Est après le puissant séisme qui a frappé la Thaïlande et la Birmanie la semaine dernière. Un bilan en hausse. La junte birmane parle de plus de 3300 morts selon les médias d'État. Il y aurait aussi 4500 blessés, 220 personnes toujours portées disparues. Les Nations Unies estiment que plus de 3 millions de personnes ont été affectées d'une façon ou d'une autre par la catastrophe, alors que la Birmanie est en pleine guerre civile depuis 4 ans et le coup d'état de la junte militaire en février 2021. Le monde doit se rassembler derrière le peuple birman, a écrit sur X le principal responsable de l'aide de l'ONU.
Radio France Internationale.
En Iran, un responsable politique limogé après un coûteux voyage en Antarctique. Le président iranien Massoud Pezeshkian a démis de ses fonctions aujourd'hui son vice-président chargé des affaires parlementaires. C'est une photo publiée sur les réseaux sociaux qui a tout déclenché. Un cliché pris par l'ex-vice-président près d'un bateau de croisière offrant depuis 2009 des expéditions luxueuses en Antarctique. Alors où le pays subit l'hyperinflation et une crise économique, la crise de l'eau est elle aussi devenue une source de tension entre les différentes provinces iraniennes, mais aussi avec les pays frontaliers comme l'Afghanistan ou la Turquie depuis plusieurs années. Correspondance de Siavos Ghazdi à Téhéran.
Des centaines d'habitants de la province d'Isfahan ont détruit il y a quelques jours deux stations de pompage d'eau potable vers la province de Yazd. Située dans le sud de l'Iran, les forces de l'ordre sont intervenues mais n'ont pas réussi à empêcher les destructions. Cette canalisation avait été construite il y a plus de 20 ans, du temps de l'ancien président réformateur Mohammad Khatami, originaire de Yazd. Cette action est le signe de la très grave crise de l'eau dans tout le pays. Depuis plusieurs années, l'Iran connaît une sécheresse sans précédent. La plupart des barrages du pays manquent d'eau et n'ont pas été remplis, faute de pluie. Les autorités prévoient plusieurs heures de coupure d'eau potable par jour. L'été prochain, la situation de l'agriculture est encore pire, car les puits agricoles seront fermés pendant 6 ou 7 heures par jour. Face à la pénurie, le gouvernement a lancé d'énormes projets pour transférer l'eau du golfe Persique ou de la mer d'Oman vers les régions centrales du pays, mais cela prendra plusieurs années et ne pourrait pas répondre aux besoins de l'agriculture. Certaines villes du pays, notamment la capitale Téhéran, devraient connaître des rationnements cette année. Siavosh Kiazi, Téhéran RFI.
Et puis en Belgique, c'est une affaire qui suscite la polémique. Un étudiant en gynécologie a été reconnu cette semaine coupable de viol sur une étudiante. Mais le tribunal de Louvain a décidé de ne pas prononcer de peine et le jeune homme conservera un casier judiciaire vierge. La raison, une personnalité favorable, dit le juge. Un jugement qui fait scandale dans le pays, à Bruxelles, Lakshmi Lotha.
À Bruxelles, à Louvain ou encore à Gand, des étudiants manifestent pour protester contre la décision du tribunal. Blouse blanche mais sale, bourgeois violeur, système protecteur, peut-on lire sur les pancartes. Ils se sont réunis ce vendredi soir pour exprimer leur malaise face à l'impunité des agresseurs. L'affaire remonte à novembre 2023. Après une fête d'Halloween, un étudiant en médecine ramène une étudiante dans son logement et la viole. Le tribunal correctionnel de Louvain l'a reconnue coupable de viol cette semaine. La victime n'était pas en état de donner son consentement. Mais le juge décide de suspendre le prononcé d'une peine et de ne rien inscrire dans le casier judiciaire de l'accusé. Il invoque, je cite, « la jeunesse de l'étudiant en gynécologie de 24 ans, sa personnalité favorable et la volonté de ne pas nuire à sa carrière professionnelle ». Après ce jugement controversé, l'université de Louvain et l'hôpital où l'homme effectue actuellement un stage ont décidé de le suspendre provisoirement. En Flandre, le parquet a fait appel de la décision du tribunal. Lakshmi Lotha, Bruxelles, RFI.
Et en Martinique, Rodrigue Petitot, leader du mouvement contre la vie chère, a été remis en liberté hier. Le président du Rassemblement pour la protection des peuples et ressources afro-caribéens avait notamment lancé le mouvement de blocage de supermarchés pour dénoncer les prix de l'alimentaire, 40% plus cher que dans l'Hexagone. Il était détenu sous surveillance électronique pour avoir proféré des menaces contre des élus.